La les grandes de votre voix, grand journal. Les grandes voix, bien sûr, Anissa, jusqu'à 19h chaque soir. Ils sont là en studio à mes côtés. Merci à tous et bonsoir à vous, Michel Cotta.
Bonsoir.
Bienvenue. Oui. Bonsoir, Gérard Carrérou.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Mickaël Darmon est avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir, Mickaël. Vous êtes éditorialiste Europe 1. Et vous aussi, vous avez votre mot à dire au 39-21. On vous attend nombreux. On vous attend notamment sur le sujet des urgences. Parce que, ça y est, on sait depuis cet après-midi quelle est la somme, le budget alloué par la ministre de la Santé. 750 millions d'euros sur 3 ans. Bis repetita, hein. C'est la 3e fois en 6 mois qu'Agnès Buzyn annonce un plan. Celui-là va peut-être être le bon, Gérard Carrérou ?
Oui, on peut toujours demander plus, mais il faut reconnaître que c'est un vrai plan ambitieux, que 750 millions, c'est pas rien. Hein. Vous me direz, oui, mais 1 milliard, ça aurait peut-être été mieux que 750 millions. Bon, en tout cas, c'est un vrai plan, et cette fois-ci, elle a, je crois, essayer de répondre d'une manière globale, cohérente, à un problème qui est un problème considérable et qui est un problème qui risquait d'entraîner un certain nombre de mouvements. Enfin bon, c'est un problème qui était devenu un problème politique majeur. Je pense que là, elle apporte des solutions. Je vais laisser mes camarades en expliquer, s'expliquer aussi, mais elle apporte des solutions sur lesquelles on peut revenir, qui me paraissent très positives.
Du courage politique, Michel Cotta, a même dit François Beaune, qui était à mon micro il y a un instant, président
lui,
du SAMU Urgence de France.
Lui est très positif, il n'est pas sûr que tous les acteurs
le soient.
Soient aussi, mais il faut dire que dans les 12 mesures, il y a à la fois effectivement des mesures financières, alors pas sur les salaires, on voit bien que,
pas sur les salaires,
que c'est là-dessus
quand même
évidemment qu'il va y avoir des revendications.
Absolument.
Mais enfin, il y a quand même, je trouve, quelque chose d'assez professionnel sur la façon. Alors évidemment, elle est médecin, elle connaît ça par cœur, mais je trouve que les réponses qui ont été apportées sont des réponses dont on sait soi-même qu'on a besoin. C'est vrai que moi, je préfère appeler un numéro avant de savoir si je dois être dirigée aux urgences ou aller ailleurs. Bon, pour chacun, les maisons de santé à côté des hôpitaux, c'est une très bonne idée pour désengorger, en tout cas. Donc, il y a beaucoup de mesures baptisées techniques, mais qui sont en réalité ce qui était, à mon avis, nécessaire pour ce problème d'urgence. On verra après pour le personnel.
Exactement.
Est-ce qu'il en
les
faut
salaires,
plus, il manque 800 médecins, 1000
oui.
médecins, peu importe.
Voilà.
Mais là, on verra ça pour le reste.
Il y avait quand même une grosse attente autour des lits supplémentaires, Mickaël Darmon, une grosse attente autour du salaire, effectivement. Rien là-dessus, sur les soignants.
Oui, elle ne lève pas le tabou sur le nombre de lits supplémentaires qui était une piste explorée et qui aurait pu, à ce moment-là, peut-être, en tout cas, satisfaire en partie l'intersyndicale et les acteurs et les grévistes dans les différents services. On s'aperçoit qu'effectivement, en voyant déjà d'ores et déjà les premières réactions des grévistes de l'intersyndicale qui se réunit demain, qu'au fond, avec les urgences, eh bien, c'est jamais assez suffisant parce que c'est toujours tellement urgent que c'est jamais assez suffisant et que, effectivement, on vient de dire, le mal est très profond, très ancré et que le malaise est déjà très très étendu. C'est vrai que sans les mesures dites de reconnaissance des personnels, hein, recrutement, salaire, ça va paraître compliqué. Il est vrai aussi que le volet médecine de ville qui permet de réorienter, pas tout de suite vers l'hôpital, ça va être une avancée, même si ça va mettre du temps.
C'est ce que j'allais dire, c'est que tout ça ne va pas se faire en
3 ans. D'abord, le plan, il est prévu
sur 3 ans.
Bon, mais 3 ans, mais ça commence, d'après ce que j'ai entendu du ministre, ça commence très rapidement. Déjà, ça c'est aussi quelque chose d'important. Je vais quand même mettre un bémol à mon approbation optimiste. Le bémol, c'est d'où viennent les 750 millions ? Est-ce que c'est le budget de la santé globale plus 750 millions ou est-ce qu'on va aller chercher dans tous les compartiments du budget de la santé un certain nombre de 25 millions ici, 50 millions. Parce que si c'est la deuxième solution, à ce moment-là, on risque d'avoir des déconvenues.
Il faut savoir que le budget...
C'est un problème quand même. Énorme, quoi. C'est sans doute un des plus gros problèmes, ces urgences qu'est affronté notre société d'aujourd'hui, puisque tout le monde pense qu'il a droit aux soins, et tout le monde en principe a droit aux soins, que la médecine libérale est quand même largement absente le vendredi, le samedi, le dimanche. Et de ce point de vue-là, je trouve que les liens entre médecine libérale et médecine et urgence sont très bons. À installer si ça marche.
Alors on y revient dans un petit instant, on a aussi des auditeurs nombreux qui nous appellent à ce sujet au 39-21.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. N'hésitez pas à venir les interpeller en direct, 39-21, 50 centimes la minute. Ce soir, Michel Cotta, Gérard Carrérou et Mickaël Darmon, éditorialiste Europe 1.
Avec la réponse d'Agnès Buzyn aux urgences, à cette crise des urgences, elle a abattu ses dernières cartes, la ministre de la Santé, aujourd'hui même. On est en ligne avec Clémence qui nous appelle de Saint-Malo. Bonsoir Clémence.
Bonsoir.
Et vous, vous êtes infirmière, donc c'est particulièrement intéressant de vous entendre ce soir. Qu'en dites-vous ?
Oui. J'en dis que nous, notre hôpital de Saint-Malo a été un des premiers services à se mettre en grève au niveau des urgences, donc c'était au mois de mars. C'est vrai que le fond, il vient de là, il vient vraiment du problème au niveau des urgences, mais après, il y a tout qui remonte au niveau de l'hôpital, parce que il y a toutes les prises en charge qui vont aller derrière et qui vont être importantes, donc c'est bon d'ouvrir ce budget pour les urgences, mais il ne faut pas oublier tous les autres services qui sont derrière et qui récupèrent les patients au niveau des urgences, et donc il n'y a pas que les urgences, je pense, qui ont aussi besoin de ce budget, ça va être tout l'hôpital en général.
Bon, il faut commencer par le commencement, si je puis me permettre, juste parce que vous dites que l'hôpital dans lequel vous exercez était un des premiers en grève, est-ce que vous pensez que c'est de nature, là, ces annonces, à reprendre demain de l'activité normalement ?
Non, je ne pense pas, parce que dans ce plan... Comme c'était dit tout à l'heure, on ne parle pas des salaires des soignants. Et ça, je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui, parce qu'on s'occupe d'êtres humains. On utilise quand même des produits, des médicaments qui peuvent mettre en péril leur santé si on ne fait pas attention. Ça commence par l'augmentation du salaire, je pense, aussi des salariés, une reconnaissance salariale en fait, et par des moyens humains un peu plus important, parce que les gens qui reviennent sur leur jour de repos parce qu'il y a des arrêts, parce que il y en a qui sont en burn-out de fatigue, je pense qu'il y a aussi besoin de privilégier ça, c'est important.
Donc vous nous dites peut mieux faire, en fait, si je résume en quelque sorte, Clémence, ce soir votre propos depuis Saint-Malo. Merci de nous avoir appelé. Jean-Claude est également en ligne avec nous, j'aimerais bien qu'on vous écoute. Jean-Claude, bonsoir à vous.
Vous habitez dans un...
Bonsoir, vous habitez dans un désert médical, c'est ça ?
Oui, on peut dire ça comme ça. Même s'il y a encore des médecins, c'est devenu problématique.
Et concrètement, là, quand vous entendez les 750 millions d'euros, ainsi que les mesures annoncées par Agnès Buzyn, vous êtes rassuré ?
Non, pas du tout, parce que ça ne résout rien du tout. En clair, les médecins généralistes chez moi, il y en a beaucoup qui ont pris la retraite ou qui vont la prendre. D'autres qui durent au-delà de l'âge du départ en retraite, ils ne prennent plus de clients. Les médecins qui sont encore en capacité continue, certains sont jeunes, d'autres pas. Il est difficile de trouver un médecin pour se faire soigner. Et les services de garde sont vraiment à problème dans la médecine générale. Et quand on a besoin, on peut aller à l'hôpital, mais ça marche de moins en moins puisque l'hôpital rejette tout le monde. Mm-hmm. Je pense que la mesure qui est tombée aujourd'hui va leur donner un peu plus raison. Et comment on fait dans ce cas-là ?
D'accord. Donc ce soir, vous n'avez pas du tout de raison d'être satisfait ou d'être rassuré par les annonces de la ministre. Merci beaucoup, Jean-Claude, de nous avoir contactés. À tous les trois, Gérard Carrérou, Michel Cotta, Michaël Darmon, vous entendez les témoignages ? Vous entendez ce soir les auditeurs ? Ils restent sur leur faim.
Vous savez, quand un problème commence il y a 6 mois, moi j'ai toujours peur de ça. Quand on ne prend pas le problème dès qu'il intervient. Là, il date d'avant les vacances. Et puis, ça me fait toujours penser aux gilets jaunes et aux premières revendications qui consistaient à vouloir payer moins cher l'essence. Et puis, on a vu après que ça durait et du coup, les revendications s'accumulaient. Là, ça fait 6 mois que ça dure. Il y a la moitié à peu près, un peu moins que la moitié des services d'urgence de France qui sont dans cette grève où les gens travaillent, mais en étant en grève. Je ne suis pas sûr, effectivement, qu'au résultat demain, il n'y ait pas un refus en disant « c'est pas assez » ou « c'est pas ce qu'on voulait ».
Oui, mais c'est vrai que ce qu'on constate également, c'est vrai que ça dure depuis longtemps, ça s'est installé comme une sorte de conflit à basse intensité permanent, mais que pour l'instant, ça ne sort pas des frontières de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, on n'entend pas un travail, je dirais, syndical venir exercer un levier, un effet de levier pour élargir le conflit.
Ça ne s'est pas encore
aggloméré. De ce point de vue-là, ça ne joue pas ce rôle pour l'instant. Ce que je constate aussi, c'est que, en revanche, c'est effectivement un problème politique aigu, et c'est un détail qui me fait vraiment confirmer cela. Bien, c'est l'absence d'Edouard Philippe à côté d'Agnès Buzyn.
C'est vrai que cet après-midi, elle était seule.
Ou une marque de confiance, parce qu'elle est autonome et elle est parfaitement compétente, ou il ne veut pas non plus trop se mouiller, entre guillemets, et il la laisse en avant gérer un problème qui est crucial, qui est vraiment politiquement aigu, qui pourrait devenir effectivement un nouveau foyer de résurgence, peut-être la contestation, nouvelle version des gilets jaunes, qui aurait muté, hein, mais qui pourrait encore refaire partir une contestation sociale. Et on sent bien que c'est extrêmement délicat pour le chef du gouvernement.
Le problème est uniquement... je trouve que toutes les mesures techniques sont... à mon avis, assez bien pensé. Le seul obstacle qu'on voit bien, c'est que comme partout, on demande du personnel et des salaires. Voilà, c'est tout. Et des salaires en plus. Donc c'est partout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient quand même... D'autant qu'en plus, les mêmes qui demandent de l'argent sont les premiers à dire que la dette, qu'on laisse filer la dette. Alors vous voyez, c'est difficile.
Et comme le disait la première auditrice infirmière, très justement, ça ne va pas suffire uniquement parce que ça doit servir à tout l'hôpital. Or, on voit bien que là, on est dans une logique de tenter d'éteindre un incendie ou un feu. Alors qu'à chaque fois que le gouvernement, depuis le début du mandat, prenait une réforme ou un sujet, il disait il faudra faire une réforme systémique, globale et insérer l'évolution dans la globalité.
Et là, on est maintenant passé vraiment dans les
incendies qu'il faut éteindre les uns après les autres.
Bon, en tout cas, elle est en première ligne sur beaucoup de dossiers, Agnès Buzyn. En cette rentrée, il y a aussi la loi PMA qui viendra, la réforme des retraites. Donc, elle a du pain sur la planche. On se retrouve dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy et les grandes voix. Ce soir, autour de la table, Michel Cotta, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1. N'hésitez pas à réagir en direct. On vous écoute 39, 21, 50 centimes la minute.
Allez, on est ensemble encore pendant une petite dizaine de minutes et on se le dit franchement, il y a du rififi chez les marcheurs. Hein, ils ont eu beau se réunir à Bordeaux ce week-end, le campus des territoires, on ne s'appelait pas université d'été, il fallait changer, etc. On est à 7 mois des municipales. Ça va donner quoi ? Ça n'arrête pas, Gérard Carrérou, de tirer dans tous les sens.
Les marcheurs, mettons-nous à la place des marcheurs une seconde. Ils ont soutenu ardemment un homme qui a été élu dans la foulée président de la République. Voilà. Ils ont l'impression, ils ont gagné dans la foulée les élections législatives. Ils ont été tous élus, donc 300 et quelques, dans cette foulée. Ils se disent, la logique normale pour nous, c'est de gagner les municipales et que toutes les grandes villes de France, ou la plus grande partie, basculent chez nous.
C'est ça, ça c'est sur le papier.
Ça c'est le papier. Mais oui, mais ils sont dans le rêve encore. Et là, ils sont contraints à une réalité qui est différente. On leur dit, mais attendez, à Bordeaux, il y a un maire actuellement qui est le protégé de monsieur, enfin, qui était le successeur protégé de monsieur Juppé, qui est très bien. Et ils disent, bah non, nous, on va le virer, on va mettre quelqu'un de chez nous. Et ainsi de suite.
Alors, ainsi de suite. Michèle Crouzet, députée La République En Marche de Lyon, elle était ce matin au micro de Mathieu Bellard. Méliard, elle voulait être candidate à la mairie de Sens. Le parti lui a préféré sa rivale. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va certainement quitter En Marche. Elle souhaite alerter le président sur les dysfonctionnements du parti. Écoutez.
On a l'impression qu'on est un peu trop perché au niveau parisien. Et on oublie de nous consulter.
Qui ?
Des personnes du mouvement et des personnes de la commission d'investiture. Il n'y a personne, il y a Guérini. Moi, je les ai appelés pas mal de fois et on a été un peu sourds à mes appels. C'est le fonctionnement du mouvement et de la commission d'investiture qui pose problème et qui semble déconnecté par rapport à ce qui se passe sur les territoires.
Vous êtes encore membre du groupe La République En Marche ?
Je vais bientôt le quitter.
Et voilà, ça c'est fait,
oui,
Michel.
Bon,
fonctionnement,
voilà.
Identité,
attendez.
Orientation stratégique, oui, tout est.
Et voilà, vous savez, tous les candidats qui n'ont pas l'investiture, c'est pas le premier parti. Hein, on avait eu beaucoup. Moi, je vous rappelle, le Parti Socialiste, tous les partis majoritaires, tous les partis qui ont l'impression d'avoir le vent en poupe, suscitent évidemment beaucoup de candidatures. Donc, c'est effectivement pas la première ni la dernière, à contester le Comité National d'Investiture. Ceci étant, elle a peut-être raison, parce que je trouve que ce Comité National d'Investiture n'est pas assez connu. Peut-être qu'il faudrait
savoir qui fait quoi, et être plus transparent.
Bon. Mais autrement, oui, c'est vrai, le réflexe est d'aller seule, cette députée, elle aura le réflexe d'aller seule à la bataille, comme sans doute le même député à Nice, etc.
Nice, à Lille,
le problème, c'est qu'il faut être élu. Oui, mais il faut être élu, parce que si ça consiste simplement à diviser les forces et à aider les adversaires, franchement, c'est pas une bonne stratégie de toute façon.
Bah alors c'est quoi la stratégie ? C'est de adopter les règles d'un parti traditionnel, quitte à se banaliser,
en fait, Mickaël, se bagarrer au lieu de s'unir.
Ce qui s'est passé, c'est que dès le début de son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron a fait passer un message au nouveau responsable, à l'époque c'était Castaner du parti, en disant je pourrais pas investir tous les référents en bas parce qu'ils sont pas au niveau. Il va falloir trouver des vrais candidats. Et dès le début, il y a une consigne de créer une armature verticale qui puissent imposer des bons candidats, entre guillemets, en tout cas de leur point de vue, pour aller aux batailles locales. Le problème, c'est qu'en bas, dans le parti, sur le terrain, ils ont tout simplement cru au prospectus. On leur a dit, c'est un nouveau parti.
L'affiche était tentante.
On change les usages, on change les codes. Vous allez faire de la politique autrement. Et d'un coup, on s'aperçoit que c'est un comité d'investiture à la verticale.
D'accord, mais s'ils sont 10 sur le même poste, à un moment donné, ça pose aussi problème.
Il y a des questions de niveau. Certains m'expliquent, mais on ne pouvait pas investir telle ou telle personne parce qu'ils ne sont pas au niveau.
Bien sûr,
donc
parce
qu'il y a des décisions.
Mais ils n'ont pas compris que les municipales, Bayrou et Édouard Philippe, les deux, qui étaient un peu dans le même registre, ou même beaucoup dans le même registre, l'ont bien expliqué. Ce n'est pas le même type de scrutin. Le maire, c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on apprécie,
etc. Quelqu'un qui a, il faut du temps pour être maire, il faut une carrière politique.
Bien sûr, mais bien sûr,
n'a pas d'élus locaux.
Chacun des députés pense qu'il peut battre le maire sortant. Et ça n'est pas le cas.
Bon, on y reviendra parce que c'est
dans partis qui l'appartiennent.
On y reviendra parce que c'est dans 7 mois, c'est municipal.
Oui, on a le temps d'y revenir.
Et on a le temps d'y revenir avec évidemment différentes séquences. C'est un feuilleton qu'on va suivre. Je donne simplement le propos de Nicolas qui nous appelait de Chartres. Merci à Nicolas. C'était inévitable, nous dit-il. Les gens ont cru au renouveau que prenait Macron, mais la recette est la même que la vieille classe politique et la verticalité interne des partis. Hein, la messe est dite.
Mais comment faire autrement ?
Mais voilà, c'est comme ça. Merci en tout cas. Merci à tous les trois. Merci à vous. Europe 1.